Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Protégez-vous, Quatre temps, Plein soleil et Pivot. Au programme, déjouer la déprime hivernale, le bouquet bleu, la force tranquille du tai chi et les changements climatiques annoncent-ils plus d'inflation? Bonne écoute.
Déjouer la déprime hivernale. Un texte de Laura Landry. Paru janvier 2023 dans la revue Protégez-vous. Le trouble affectif saisonnier touche près d'une personne sur cinq. Pour le combattre, rien de tel que de se comporter en hiver comme on le ferait en été. Le temps des fêtes est passé. On voit moins de monde. On sort moins, les factures rentrent, les journées sont froides et les nuits longues. Janvier est difficile pour plusieurs. Le blues de l'hiver, ce n'est pas qu'une impression. La déprime saisonnière ou trouble affectif saisonnier, TAS, touche de façon grave 2 à 3 % de la population canadienne et près d'une personne sur 5, 20 % de manière légère à modérée. Les effets de cette déprime commencent à se faire sentir dès l'automne et atteignent leur pic au milieu de l'hiver. Quelles en sont les causes? Ce trouble est dû principalement à la baisse des heures d'ensoleillement qui vient jouer sur le niveau d'hormones et l'activité de certains neurotransmetteurs dans le cerveau. La baisse de sérotonine joue sur l'humeur. Les fluctuations dans la mélatonine altèrent nos rythmes d'éveil et de sommeil. Certains ont beau dormir des heures, ils se lèvent fatigués. Les femmes, à cause des variations dans le taux d'estrogène, sont 4 fois plus nombreuses que les hommes à être touchées par la déprime saisonnière. La baisse d'ensoleillement a un effet, soutient Marie-Pierre Lavoie, psychologue spécialisée en dépression saisonnière hivernale. Mais cet effet est amplifié par les changements de comportement. Les gens sont plus casaniers, ils socialisent moins, ne font plus les activités qu'ils aiment. Tout ça mène à la déprime. Certains facteurs peuvent aussi contribuer à cet état morose. Par exemple, pour les gens qui ont des emplois saisonniers et dont le rythme de vie et d'activité change radicalement pendant la saison froide. Bouger, sortir. Quand on se rend compte qu'on commence à trop vouloir être en mode cocooning, il faut passer en mode actif, dit Marie-Pierre Lavoie. La psychologue recommande de conserver un horaire de sommeil stable, de bien manger, mais surtout de faire des activités qu'on aime et d'éviter de s'isoler. En fait, de vivre en hiver avec plusieurs bonnes habitudes de l'été. S'exposer à la lumière naturelle est l'idéal pour ne pas tomber dans la déprime hivernale. Le mieux, explique-t-elle, c'est de conjuguer activité physique et exposition à la lumière. Les deux jouent sur notre métabolisme et apportent des bienfaits pour notre santé mentale. Le froid vous rebute pour sortir et jouer dehors? La solution, habillez-vous confortablement. C'est certain que si on a froid chaque fois qu'on va à l'extérieur et qu'on ne fait rien d'amusant, dit-elle, l'expérience est négative. Luminothérapie. Quand l'accès à la lumière naturelle est difficile, la luminothérapie peut aider. Vous trouverez des lampes de luminothérapie de bonne qualité en pharmacie, dans les grandes surfaces et certaines boutiques spécialisées en équipement médical. Pour maximiser les bienfaits de cet éclairage, l'idéal est de s'exposer tôt le matin afin de stimuler la phase d'éveil du corps, surtout s'il y a plus d'une heure entre notre réveil et le lever du soleil. Il est recommandé de commencer par une exposition de 15 minutes, 2 à 3 fois par semaine. On ressentira les changements assez rapidement, généralement au bout d'une semaine. Si vous avez des troubles de santé particuliers, mieux vaut consulter un professionnel avant de faire l'achat d'une lampe de luminothérapie. Certains effets secondaires, tels que l'agitation et la fatigue oculaire, peuvent apparaître, note la psychologue. La thérapie. Dans certains cas, la dépression saisonnière doit être traitée au moyen d'une thérapie adéquate. Il est important de reconnaître nos pensées négatives et de bien les gérer, mentionne la psychologue Béatrice de Montigny. La thérapie aide les personnes dont le diagnostic est confirmé à retrouver une bonne hygiène de vie et à socialiser pour mieux traverser les mois les plus sombres de l'année. C'était « Déjouer la déprime hivernale », un texte de Laura Landry, paru janvier 2023 dans la revue « Protégez-vous ». Le bouquet bleu, un texte de Sylvie Perron, paru automne 2021 dans la revue Quatre Temps. Acheter local, bio et éthique est dans l'air du temps. Si le contenu de nos assiettes s'est transformé au cours des dernières années, il y a encore du chemin à parcourir du côté des bouquets de fleurs coupés. Pourtant, quelques conseils de pros et une belle dose de créativité peuvent faire toute la différence. Avant d'atterrir sur les étals des fleuristes, les fleurs coupées ont parcouru des milliers de kilomètres en avion. La plupart proviennent d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Leur culture nécessite beaucoup d'eau et de pesticides de synthèse et, malheureusement, les ouvriers du secteur ne bénéficient pas toujours des meilleures conditions de travail. Des filières équitables disponibles chez certains fleuristes ont cependant fait leur apparition au Canada en 2004. Même si les conditions de culture s'améliorent, la production de ces fleurs génère rien qu'en transport une quantité non négligeable de gaz à effet de serre, GES. L'empreinte écologique de cette industrie est donc considérable. Est-il possible de profiter du plaisir des bouquets en utilisant des produits éco-responsables, locaux et équitables? La réponse est oui. Fleurs locales et éco-responsables. Au Québec, de plus en plus de petits producteurs se sont spécialisés dans la culture des fleurs coupées éco-responsables. Certains vendent leur production dans les marchés publics, d'autres offrent la possibilité de s'abonner à une livraison périodique de bouquets à des points de chute selon le même principe que les paniers de légumes bio. D'autres encore proposent l'autocueillette. En 2017, Sophie Payeur, ancienne journaliste scientifique à Radio-Canada et détentrice d'une maîtrise en environnement, a créé sa ferme florale écologique à Sherbrooke. Sophie dans les champs. Notre petite entreprise cultive une cinquantaine de variétés de fleurs de façon 100% écologique. Tous nos amendements sont tirés du sol et de la terre. Il s'agit de compost vivant et de thé de compost fabriqués dans les règles de l'art. Ils sont renvoyés à la terre lors de la production. Quant au transport, qui émet indiscutablement des GES, il est très limité, car nous travaillons et vendons dans un rayon maximum de 10 km, précise-t-elle. Une autre avenue consiste à cultiver soi-même ses fleurs coupées dans son jardin. Au cours des derniers mois, de nombreuses personnes ont sorti pelle et truelle pour cultiver leurs propres légumes. Alors pourquoi ne pas poursuivre la démarche dans le même sens et ajouter des fleurs à ces plates-bandes? Cet été, je ferai un jardin. Tout d'abord, il s'agit de trouver un emplacement adéquat. Si on choisit d'utiliser les plates-bandes existantes, on commencera par faire l'inventaire de tout ce que l'on a et regardez ces plantes d'un nouvel œil. Peut-être avez-vous déjà certaines plantes vivaces ou arbustes qui pourraient très bien servir à la composition de bouquets. Il s'agira de compléter en ajoutant certaines espèces choisies ici et là. On pourra aussi opter pour la création d'un nouvel espace, comme une plate-bande le long de son potager ou d'une clôture. Les plus ambitieux pourront créer un espace qui ressemble à un potager, mais où les rangs de légumes sont remplacés par des rangs de fleurs. On y va selon l'évaluation de ses besoins et du temps que l'on souhaite y consacrer. Le bonheur est dans les fleurs. Le choix des végétaux utilisés pour la fleur coupée est vaste. Les annuels ont l'avantage de fleurir tout l'été et, en général, la cueillette les stimule même à refleurir. Les bulbes à floraison printanière sont aussi intéressants. Les tulipes et les narcisses, par exemple, forment des bouquets printaniers exceptionnels. Les bulbes à floraison estivale, comme les dahlias, sont aussi incroyables en bouquet. Bien sûr, les vivaces apporteront de la diversité tout au long de la saison estivale. En revanche, il faudra peut-être attendre quelques années après leur plantation pour avoir une bonne production de fleurs et la période de floraison sera plus courte que celle des annuels. En plus des fleurs, on ne doit pas négliger les arbustes qui apportent de la structure au bouquet, ainsi que les fougères ou les graminées qui ajoutent de la verdure. Vous écoutez « Le bouquet bleu », un texte de Sylvie Perron, paru automne 2021 dans la revue Quatre Temps. Mais toutes les plantes ne font pas de belles fleurs coupées, comme l'explique Sophie Payeur. La fleur doit avoir une longue tige et bien sûr une bonne durée de vie en vase. Le zinnia fait partie de mes coups de cœur. Il fleurit tout l'été et est facile d'entretien. De surcroît, plus on le coupe et plus il fleurit. C'est aussi une fleur qui s'offre dans toutes les occasions, mentionne-t-elle. L'horticultrice suggère aussi les dahlias, pour la diversité de leurs fleurs parfois gigantesques, et les renoncules, Ranunculus asiaticus. Cette dernière comporte toutefois un défi pour le jardinier amateur. Nous plantons les tubercules en serre froide en mars, précise l'horticultrice. En effet, cette plante qui affectionne les températures fraîches n'apprécie pas nos étés trop chauds. Ceux qui voudraient tenter l'expérience pourraient la planter en pot à l'intérieur en mars et la sortir à l'extérieur une fois les risques de gel passés. Elle profitera alors des températures moins chaudes du début de la belle saison. Du côté des annuels, Sophie Payeur suggère le mufflier, Antirrhinum majus, pour la diversité des coloris de ses fleurs. La cynoglosse, Cynoglossum amabile, et la verveine de Buenos Aires, Verbena bonariensis. Pour les vivaces, elle opte sans hésiter pour le lupin, Lupinus perennis, la centaurée, Centaurea montana, et la grande giroflée, Matthiola incana. Du côté des fines herbes, les fleurs d'aneth, Anethum graveolens, de sauge ananas, Salvia elegans, et de lavande, Lavandula angustifolia, s'intègrent très bien dans les bouquets. Les catalogues de semences peuvent aussi être une bonne source d'inspiration. Des bouquets qui durent. Pour conserver son bouquet plus longtemps, mieux vaut éviter de cueillir les fleurs durant les heures les plus chaudes de la journée. On fera donc la récolte tôt le matin, moment frais de la journée, où les fleurs sont bien hydratées. On s'assurera de mettre ces fleurs dans l'eau le plus rapidement possible. L'idéal est d'aller au jardin avec un seau d'eau et de les y placer directement après la cueillette. On utilisera une eau plutôt fraîche et on prendra bien soin d'enlever les feuilles sur toute la portion de la tige immergée pour éviter la pourriture et la contamination de l'eau. Les fleuristes professionnels placent les bouquets au réfrigérateur quelques heures pour une meilleure turgescence des fleurs, c'est-à-dire une meilleure rigidité des tiges due à l'afflux d'eau dans les cellules. Il est aussi impératif de changer l'eau des fleurs tous les jours et de couper la base des tiges en biseau avec un couteau bien tranchant ou un sécateur pour les tiges ligneuses. On enlèvera 1 cm de la tige à chaque fois. La coupe en biseau empêche la tige de coller au fond du vase, ce qui risque de nuire à l'absorption de l'eau, et permet d'augmenter la surface d'absorption. cette coupe peut également stopper le processus de cicatrisation à la base des tiges afin d'assurer une meilleure absorption de l'eau. Évidemment, on évitera de placer son bouquet en contact direct avec les rayons du soleil ou à proximité de sources de chaleur. Vous voilà maintenant prêt à réaliser vos bouquets avec des fleurs locales écologiques que vous aurez cultivées vous-même. Ce sera le plus beau des bouquets. Il ne sera pas que bleu, il sera multicolore. C'était « Le bouquet bleu », un texte de Sylvie Perron, paru automne 2021 dans la revue Quatre Temps. La force tranquille du Tai Chi. Un texte de Annie Lafrance, paru automne 2021 dans la revue Plein Soleil. Dans un parc achalandé, malgré le brouhaha des alentours, des gens semblent imperturbables. Leurs mouvements lents et posés, savamment chorégraphiés, forment presque une danse au ralenti. Envie d'essayer à votre tour le Tai Chi? Ce n'est pas d'hier que le Tai Chi fait de nombreux adeptes. Cet art martial chinois se pratique depuis près de 700 ans et traverse les frontières. Il semble toutefois que sa pratique suscite un nouvel engouement, non seulement auprès d'une clientèle sédentaire qui souhaite se remettre doucement en action, mais aussi chez les plus actifs qui veulent reprendre le contrôle de leur respiration. Dans un cas comme dans l'autre, la pratique du Tai Chi a de nombreux bienfaits. Chaque posture est doucement empreinte de poésie jusque dans son nom. Initiez-vous au mouvement de la grue blanche qui déploie ses ailes, au battement d'ailes de l'oie sauvage volante ou encore à la danse du dragon. Loin du gym et des disciplines axées sur la performance, le Tai Chi favorise le bien-être et l'équilibre entre la santé physique et mentale. Ses mouvements lents et doux ne sont pas anodins. Ils procurent tonicité et vitalité au corps et à l'esprit. Améliorer sa santé. Pourquoi s'initier au Tai Chi? La principale raison est de reprendre l'activité physique. Cet exercice à faible impact permet de renforcer le corps et le mental en douceur, sans brusquer les articulations ni couper le souffle. C'est prouvé, répété maintes fois, les différentes poses du Tai Chi ont même un effet marqué sur la santé osseuse. Ainsi, en augmentant progressivement l'endurance physique, les risques de blessures diminuent. Des études scientifiques menées à ce sujet et citées par le New York Times démontrent que la pratique du Tai Chi permet non seulement de garder un meilleur équilibre, mais de prévenir les chutes. Une séance de Tai Chi d'une heure, une à trois fois par semaine, diminuerait de 43% les risques de chute et de blessures au bout de 12 à 26 semaines de pratique, selon les essais cliniques. C'est que le Tai Chi combine les avantages de différents exercices comme le yoga et les étirements. Il améliore la posture et fait appel à la coordination de l'ensemble du corps. Ainsi, au fur et à mesure des séances, la souplesse s'accentue et le bas du corps se renforce. Notez toutefois qu'avant de vous lancer dans un nouveau sport, parlez-en à votre médecin afin de vérifier s'il est bon pour vous. Diminuer le stress. Vous avez d'anciennes blessures ou des limites physiques? Les mouvements du Tai Chi minimisent la pression sur les zones douloureuses et, en améliorant la circulation, favorise le soulagement et la guérison. N'empêche, son plus grand bienfait reste l'atteinte du bien-être intérieur, de la tranquillité d'esprit et de la sérénité. Il a même été démontré que le Tai Chi aide à lutter contre la dépression, l'anxiété et le stress, au même titre que la méditation. Respirez-vous bien? La question peut paraître étrange, mais elle est essentielle. Le Tai Chi incite à respirer profondément, ce qui permet d'augmenter graduellement le souffle. la bonne technique. Comme pour le yoga, les postures du tai chi ne s'improvisent pas. Mais la technique de base s'apprend facilement avec l'aide d'un instructeur qualifié. Chaque cours se déroule généralement en trois phases. Il débute par des exercices d'échauffement et d'assouplissement pour ensuite enchaîner les postures canalisant l'énergie et l'équilibre pour, enfin, se recentrer sur sa respiration. Par où débuter? Comme pour le yoga, il existe plusieurs variations du tai chi. Découlant du Chen, qui est le plus ancien, le Yang est le style de tai chi le plus populaire. Il privilégie des mouvements amples et des cercles verticaux faciles d'exécution puisque le bas du corps demeure assez statique. Où le pratiquer? Pas besoin d'équipement ou d'accessoires spécifiques. Accessible et peu coûteux, le tai chi peut être pratiqué n'importe où, n'importe quand. Les studios d'arts martiaux, les centres de retraite et de bien-être s'ouvrent de plus en plus à cette discipline qui connaît un engouement depuis quelques années. Des cours sont aussi offerts par les municipalités et par les organismes communautaires afin d'initier une plus large population. Il est aussi enseigné dans les résidences pour personnes âgées et même dans les écoles pour permettre aux jeunes de faire baisser le stress avant une période d'examen. Bref, le tai chi, c'est pour tout le monde. C'était « La force tranquille du tai chi », un texte de Annie Lafrance, paru automne 2021 dans la revue Plein Soleil.
Les changements climatiques annoncent-ils le plus d'inflation? Un texte de Antoine Morin-Racine, paru le 8 février 2023 dans Pivot. L'augmentation des événements météo extrêmes et le déclin de la biodiversité seront synonymes de pressions inflationnistes dans le futur. La crise climatique risque fort de favoriser l'inflation, et la transition verte aussi, selon certains. Mais ne pas agir sur la crise climatique est beaucoup plus dangereux pour la santé de nos économies que d'entamer la transition écologique, disent plusieurs économistes. Nous avons toutes remarqué les effets de l'inflation sur nos portefeuilles. L'année 2022 a vu le coût de la vie et le prix des marchandises monter à des niveaux jamais vus en presque 50 ans. Résultat des lendemains de la crise sanitaire, de la guerre en Ukraine et des problèmes persistants de chaînes d'approvisionnement, l'inflation que nous vivons en ce moment a aussi ses origines dans la crise climatique. Malgré les appels répétés à réduire nos émissions, certains plaident encore la précaution dans une transition écologique qu'ils accusent de nourrir la hausse des prix et pour laquelle d'autres disent que nous serions déjà en retard. Pivot a interrogé trois économistes sur la question et ils et elles sont catégoriques. Les coûts de l'inaction dépassent de loin ceux de la transition. Des causes climatiques à l'inflation. Après de multiples tentatives par la Banque du Canada d'y pallier en faisant grimper les taux d'intérêt, un ralentissement significatif de la montée des prix se fait toujours attendre. Et plusieurs spéculent que seule une récession en sera le remède. Or, dans un contexte où l'offre des ressources et des services naturels qui alimentent nos économies tend à diminuer, plusieurs observateurs comme Colin Pratt, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS, doutent de l'efficacité de ce genre de solution orthodoxe, particulièrement lorsque l'inflation est causée par une variété grandissante de facteurs. On a, par exemple, récemment prouvé que les chocs de température constituaient un stresseur inflationniste considérable. La fréquence et l'intensité grandissante des événements météo extrêmes, couplés avec la disparition d'un nombre grandissant de pollinisateurs, mettent également en danger l'offre alimentaire mondiale. Jusqu'à 577 milliards de dollars de la production alimentaire mondiale annuelle serait dépendante de ces insectes. Il a été calculé que les changements climatiques pourraient occasionner une baisse annuelle des rendements à l'échelle mondiale. Les risques d'une telle crise augmentent d'ici 2030 et encore plus d'ici 2050. Les coûts de l'inaction sont plus grands que les coûts de l'action. François Delorme. Comme l'explique Benji Akbulut, économiste spécialisé en économie écologique et professeur à l'Université Concordia, les coûts de ces pressions sur l'offre sont inévitablement transférés aux consommateurs par la nature de nos régimes économiques. Les institutions du capitalisme permettent aux entreprises de transférer les coûts de la crise environnementale sur le reste de la société. Vous écoutez? Les changements climatiques annoncent-ils plus d'inflation? Un texte de Antoine Morin-Racine, paru le 8 février 2023 dans Pivot.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vcvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Claire Dorion à la lecture, Francine Thériault et Diane Métaillé à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.